avant de faire des commentaires sur ce texte, lisons donc ce texte, Philippiens 2, du verset 12 au verset 18. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est Paul qui l'écrit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alors, l'expression qu'on utilise des fois, je veux le dire, la présidence de Michel ce matin m'a laissé sans voix. Parce que c'était l'introduction la plus parfaite qui soit de tout ce que je voulais dire ce matin. C'est incroyable. Parce que je voulais en fait commencer en vous posant une question. Bon, si je pose la question, c'est que la réponse à cette question n'est pas peut-être tout à fait ce que vous pourriez proposer. La question que j'allais poser, c'était: quelle est la plus grande religion en France, ou la religion suivie par le plus d'adeptes en France? Donc, les gens vont dire, ben, c'est l'Église catholique, non, c'est l'islam, non, c'est le protestantisme, non. Bon. Alors, quelle est cette religion, à mon avis, qui a le plus d'adeptes en France?
La laïcité.
On pourrait dire la laïcité, mais c'est une forme de laïcité, c'est le développement personnel. Le développement personnel. Ça veut dire que j'ai eu l'occasion, la semaine dernière, d'aller dans une grande librairie à Paris. Il y avait des tables entières remplies du genre de livres. Comment faire ceci, comment faire cela, comment mieux s'occuper de mes enfants, comment mieux manager mes finances, comment mincir, comment manger comme il faut, comment. Et les gens cherchent à savoir comment vivre. J'exagère un peu peut-être en disant que c'est la plus grande religion de France. Mais il y a quand même un peu de vrai dans ce que je suis en train de dire. Parce que le texte que l'on vient de lire, c'était en fait, mais comment vivre en tant que chrétien? Je vais même commencer avec une citation de l'Ancien Testament, du prophète Jérémie. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard, les taches de son pelage. De même, comment pourriez-vous mettre à bien agir, vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal? Donc, la question au fond, c'est: est-ce qu'il est possible de changer? Et Jérémie est un petit peu pessimiste. Un léopard ne peut pas changer les taches de son pelage. Un Éthiopien ne peut changer la couleur de sa peau. Est-ce qu'on peut changer notre façon de vivre? Et Michel a commencé en disant quelque chose, sa première phrase, le psaume 107, montre la capacité de Dieu de changer les choses en nous, même le cours de notre histoire. C'est incroyable. Dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a répondu, et même le dernier verset de ce psaume, le psaume 107, est une invitation à venir ici le mercredi soir à 19h30. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'Éternel, parce qu'on est en train d'étudier la sagesse à notre étude biblique. Cette sagesse qui est une sagesse de Dieu. Quelle est la faiblesse, on va dire, de nos contemporains quand il s'agit de changer? Il y en a deux. La première faiblesse, c'est qu'il n'y a aucune base dans la vie. Quel est le sens de la vie? On est en train de changer des petits éléments, de manipuler des aspects de sa vie, mais il n'y a pas de fond. J'étais très intéressé par un ami qui m'a expliqué ça. Il est venu à la maison, on prenait le déjeuner ensemble, et il est en train de suivre des cours de soir et de week-end sur le management dans une des facs de Paris. Puis, il m'a expliqué que la semaine dernière, le prof a donné un bout de papier à chacun et a dit « J'aimerais que vous écriviez sur ce papier qu'est-ce qui est fondamental dans votre vie, sur quoi vous construisez votre vie, parce que dans votre style de management, vous allez bâtir là-dessus. » Et mon ami m'a dit ceci. On est une trentaine, dont trois qui s'affichent comme croyants. Les trois qui sont fichés comme croyants ont vite rempli le papier. Et les autres sont arrêtés au bout de deux nuits. Et j'étais frappé par cela. Parce que ça, c'était objectivement que ceux qui n'avaient pas la foi n'avaient aucune base, en fait, de leur vie. Et on a constaté la même chose où j'ai vu avec notre forum Veritas. Parce que ce sont des débats publics. Et on donne toujours au modérateur la consigne, mais essayer de pousser les gens par leur retranchement pour qu'ils disent quelle est la base de leur raisonnement. Sur quoi ils construisent tout leur raisonnement. Et on se rend compte au bout de quelques années que c'est extrêmement difficile. Parce que finalement le chrétien, il peut dire un certain nombre de choses de base, mais les autres n'en ont pas. Donc voilà la première faiblesse de ceux qui se fient à tout ce qui est développement personnel. La deuxième faiblesse, c'est qu'ils ne peuvent pas faire appel à qui que ce soit à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc je reviens à ce verset qui dit « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel ». C'est ce qu'on appelait dans le temps le méthode Coué, du nom de médecin de Nancy. Donc, puisque j'ai passé 20 ans à Nancy, était connu là-bas. Le méthode Coué, c'est quoi? On se soulève en se tirant sur les lacets de ses chaussures. Donc, là, on se soulève comme ça, parce qu'il n'y a aucune aide extérieure. Et finalement, le texte que nous avons lu tout à l'heure apporte un certain nombre de réflexions de la part du Seigneur, justement sur le changement. Comment on va pouvoir changer? Alors, on va regarder le texte. D'abord, donc, le verset 12. Je relis. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » Donc, trois choses. Premier mot, « ainsi ». Si vous n'avez pas « ainsi » dans votre Bible, c'est que vous avez le mot « donc ». J'ai cherché plusieurs.
En effet.
En effet. C'est-à-dire que c'est la suite de ce qui précède. Ok? Et qu'est-ce qui a précédé? C'est la partie où on voit que Jésus a donné un exemple de service. Lui qui était en forme de Dieu n'a pas voulu s'agripper à son égalité avec Dieu, qu'il est venu sur la terre en forme de simple homme. Pas uniquement simple homme, mais serviteur. Pas uniquement serviteur, mais il a subi la mort. Pas uniquement la mort, mais la mort sur le bois, qui dans l'Ancien Testament était en fait une malédiction de la part de Dieu. Donc, tout cet abaissement continuel pour nous donner l'exemple et pour nous sauver aussi. Et en raison de cela, d'ailleurs, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et voilà que Michel, encore, il va choisir ce chant-là, ce matin, je ne sais pas comment il l'a fait, pour justement aller dans le sens de la prédication. On va dire qu'on ne s'est pas téléphoné en plus. Voilà, on va dire que c'est Dieu qui nous a guidés dans tout ça. Donc voilà, le rappel de l'humilité de Jésus en prenant condition de serviteur. Deuxième chose, dans la traduction que j'ai lue, c'était mettre en œuvre votre salut. Certaines anciennes traductions de la Bible ont mis travailler à votre salut. C'est pas génial comme traduction. Parce que ça peut donner l'impression que l'on gagne le salut par son travail. C'est pas ça. Parce que, en fait, le salut, votre salut, c'est le salut que vous avez déjà. C'est votre salut. Il ne s'agit pas de gagner le salut par nos œuvres, mais de dire, on a le salut en Christ, il nous a sauvés, il nous a pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce salut? Bah, selon la traduction, c'est mettez en œuvre votre salut. Je crois que le sommaire dit faites fructifier votre salut hein, pour que ce salut porte du fruit. Quelle que soit la traduction, on comprend bien qu'il s'agit en fait de la suite à donner. On appelle des fois la sanctification, c'est-à-dire que de nous laisser transformer par le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Troisième chose dans ce texte, c'est marqué avec crainte et tremblement. On peut dire profond respect. Là encore, c'est bizarre, parce que c'était le sujet de notre étude biblique, mercredi passé. La crainte et le tremblement. Non pas parce qu'on a peur de Dieu, dans le sens qu'il est notre Père. Il nous aime. Mais dans la mesure où Dieu est quand même celui qui est là, le Tout-Puissant. Le psaume 139 qui dit qu'il voit toutes nos pensées, qu'il voit toutes nos paroles avant qu'on les prononce. On ne peut pas se cacher à lui, même la nuit, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut nous dérober de sa vue. Et même mercredi soir, à l'étude publique, j'ai cité un auteur de science-fiction, Arthur Kessler, qui a dit à un certain moment, en parlant de Dieu, soit les êtres humains sont seuls dans tout l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont également terribles. Parce que si nous sommes seuls, on n'a aucun sens à la vie, mais si Dieu est là, qui sommes-nous pour prétendre vivre et faire n'importe quoi? Par, là je reviens à ce Éphésien que Michel a lu, la sottise et l'ignorance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Paul a pu dire aussi dans ce verset 12, donc il invite ces chrétiens dans cette ville de Philippe à mettre en œuvre leur salut, qu'ils soient présents ou non. En fait, lui peut être absent ou présent, Dieu ne l'est pas. Et je pense au titre d'un livre qui est apparu il y a quelques années, « Qui es-tu quand personne ne te voit ?» Mais Dieu nous voit. Donc, ça c'est important de le savoir. Donc, le profond respect, c'est de dire que l'on prend Dieu au sérieux. Ok, on passe au verset 13. Le verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir » ou notre traduction « selon son projet bienveillant » parce que ce n'est pas le bon plaisir dans le sens où je décide ou non, ce n'est pas ça. C'est son projet bienveillant, son plan d'amour pour nous. Donc, le bon côté de l'absence de Paul, c'est que les Philippiens sont obligés de reconnaître que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans leur vie. Ce n'est pas en dépendant d'un être humain, ne fût-ce que le grand apôtre. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et c'est là où on est à la fois, il faut bien comprendre les choses. Et c'est ça qui est central à ce texte. comment pouvons-nous changer? La réponse est, sans Dieu, on ne peut pas. Mais avec Dieu, il ne le fait pas sans notre coopération, sans notre collaboration. Autrement, on serait comme des robots programmés. On n'est pas des automates. Donc, il produit en nous le vouloir et le faire parce que sans qu'il provoque dans notre cœur le désir de changer, on ne va pas le faire. S'il ne nous aide pas à le faire, on ne va pas le faire. On va regarder deux, trois textes qui vont dans ce sens. Je ne vais pas les lire en entier, simplement faire un petit peu un rappel pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. D'abord, dans Jean 15, Jésus se compare à un cep de vigne. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les branches. Okay? Et vous êtes les branches. Donc, les branches doivent produire du fruit. Mais ils ne vont pas produire du fruit à moins de rester dans le sarment, dans le cep. Sinon, la sève ne peut pas irriguer les branches et produire le fruit.
Sans les racines.
Et les racines en plus, parce qu'on est enraciné en Dieu. Ouais. Voilà. Alors, le verset clé de Jean 15, c'est le verset 5, qui dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est ça la différence avec le développement personnel. C'est qu'on a besoin de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la question que je pose à chaque fois, quoique la réponse est évidente, mais je la pose quand même, est-ce que ça veut dire avec moi, vous n'avez rien à faire, ou avec moi, vous pouvez tout faire? Un ou deux. Réfléchissez bien. Est-ce que c'est avec moi, vous n'avez rien à faire, ou avec moi, vous pouvez tout faire? C'est les deux, hein? C'est votre dernier mot. C'est les deux. C'est les deux, hein? Avec moi, cherchez dans Philippiens 4, donc on va tourner la page, Philippiens 4 et le verset 13, où Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sans lui, je ne peux pas le faire, mais j'ai mon côté à ajouter. Un deuxième texte, un troisième même, parce qu'on a lu Jean 15 et Philippiens 4, qui montre cela. Donc on est dans une sorte de mathématique de Dieu qui n'est pas la nôtre, dans 2 Pierre. Si vous cherchez 2 Pierre, vous pouvez, sinon je vais lire les deux phrases en particulier, le chapitre 1 qui parle justement des vertus chrétiennes, et au verset 3, 2 Pierre 1, 3, il dit « La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. » Donc la divine puissance de Dieu nous donne tout. Puis au verset 5, il conclut, « À cause de cela, faites tous vos efforts. » Donc, la divine puissance de Dieu nous donne tout. À cause de cela, faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience à la piété l'amitié fraternelle, et l'amitié fraternelle l'amour. Donc, voilà les versets que je viens de citer, en disant que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, mais maintenant, c'est à nous de le faire. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, il y a tellement d'appels, faites ceci, ne faites pas cela, parce que ce sont des choses à faire sous le regard de Dieu. Il ne s'agit pas d'une liste d'interdits, mais c'est pour notre bien l'envie comme ça. C'est un peu comme on dirait à un enfant, ne traverse pas la rue sans regarder à droite et à gauche, enfin, etc. C'est pour notre bien. Mais c'est un fondement solide parce que ça vient de Dieu. Versets 14 et 15. Je les relis d'abord. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez purs et irréprochables. Pardon. Je reprends. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire ? Je renvoie à ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est aimer les autres et les servir, principalement. Comment on va le faire ? Il y a quatre choses qui sont présentées ici. D'abord, sans se plaindre et sans contester. Ou là, c'est marqué sans discuter ou sans discutailler, on peut presque dire, alors que c'est sans contester. Deuxième chose, c'est en étant irréprochable au sein de cette génération. Cette génération n'est ni pire ni meilleure que les autres, à mon avis. La vie continue, on a fait des progrès technologiques, mais les êtres humains restent ce qu'ils sont. Je ne pense pas que les choses sont pires, mais ils ne s'améliorent pas non plus. Mais on doit vivre, nous, au sein de cette génération. Et il faut que l'on soit irréprochable et pur. Pur, ça veut dire sans adjonction du mal. Hein. Du miel 100% pur et du miel et rien d'autre. Donc nous, on veut faire le bien et rien d'autre. Seulement, la seule façon d'être complètement pur et irréprochable, c'est que l'on essaie de faire pour le mieux, mais aussi en étant la reconnaissance des faits. C'est-à-dire que dès qu'on se rend compte qu'on n'a pas agi comme il fallait, premier réflexe, Seigneur, pardonne-moi, il est toujours prêt à nous pardonner, et aide-moi à faire mieux. C'est ça le progrès. On n'est pas en train de dire que nous sommes parfaits, mais on est irréprochable aux yeux de Dieu par le pardon, et on cherche à être le plus irréprochable que possible, sans donner l'impression aux autres que nous sommes absolument parfaits. Je cite ce que j'ai cité encore mercredi soir à l'étude biblique parce qu'on est en train de parler de la sagesse. Donc, c'est défiler la sagesse, mais bon, c'est une sorte d'une blague dans un sens, mais c'est une façon de le dire. C'est la prière d'un enfant qui a dit « Seigneur, fais en sorte que les méchants soient bons et que les bons soient sympas. » C'est une façon de dire qu'on peut être bon et cassant, en quelque sorte, mais la vraie bonté, c'est aussi d'aimer les autres et ne pas se croire supérieur et au-dessus des autres. On doit apporter la lumière, briller comme des flambeaux. Ah. Apporter la lumière dans ce monde. Les gens n'aiment pas forcément ça. C'est comme je vois à la maison, depuis que Marie s'est fait mal au dos, j'ai du plaisir à faire le ménage parce que comme ça, j'économise sur les frais de salle de gym. Je fais le ménage à la place. Donc, j'ai tout enlevé la poussière. Trois jours après, il faisait très beau, le soleil est rentré. Il y a encore la poussière. Quand la lumière est là, parfois on a des réactions. Parce que les gens, en quelque sorte, ils comprennent combien ils sont sales ou dans la sottise et l'ignorance. Et ça, il ne faut pas forcément accepter. Bon. Mais on est là comme des lumières. Et on apporte aussi la parole de vie. Et c'est là où, en plus, on peut expliquer les choses et dire, voilà, La seule façon vraiment de vivre dans notre monde, c'est de vivre avec Dieu. Pas tout seul. On sera toujours déçu. On va aller de problème en problème. Ce n'est pas que l'on vit en dehors des problèmes du monde. Mais avec Dieu, dans la détresse, je crie à lui. Et il m'aime. Alors, pour arriver à la fin de ce texte, les versets 16 à 18, je les relis. Paul dit, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc, Paul dit en quelque sorte, si les Philippiens vivent comme ça, il sera soulagé, il sera même fier, parce qu'il dit, bon, je n'aurai pas travaillé en vain chez vous. Il y aura du fruit, il y aura des vies changées. Et il parle même du jour de Christ, petite parenthèse pour expliquer, il ne s'agit pas du jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour le salut ou pour la perdition. Le jour de Christ, on en parle dans 2 Corinthiens 5, je lis, verset 10. En parlant des chrétiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, c'est rendre compte à Christ de notre vie. Ce n'est pas une question de salut. Nous sommes sauvés. Et la suite du texte et d'autres textes montrent bien. Certains peuvent être sauvés comme au travers du feu. On dit qu'il faut construire avec du solide, des pierres précieuses, etc. Ou même si c'est avec la paille, bon, ça va partir en flammes, mais on est quand même sauvé. Donc Paul sait qu'il doit rendre compte un jour devant le Seigneur de sa vie, et il est content de savoir que les Philippiens marchent bien. Il dit, voilà, il dit, c'est son titre de gloire, de traduction du sommaire. Même si Paul dit, même s'il doit mourir en martyr, parce qu'il utilise le vocabulaire du sacrifice, au verset 17, même si je sers de libation pour le sacrifice, même s'il doit donner sa vie, il demande aux Philippiens de se réjouir avec lui. Parce que j'ai parlé des deux choses au début. Le fait que nous avons une base solide pour construire notre vie et nous avons l'aide extérieure, donc l'aide de Dieu. La troisième chose que je n'ai pas mentionnée au début, c'est que nous avons une perspective éternelle. Ça change tout. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour se débrouiller dans la vie le mieux possible, mais nous préparer pour l'éternité. Il y a même un poète chrétien anglais du 16e siècle, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit que notre vie sert à accorder nos instruments pour le concert de l'éternité. Donc j'aime bien ça. Donc c'est en train d'accorder nos instruments, apprendre à bien vivre. C'est John Donne, si vous voulez savoir l'auteur. Et donc, dans ce sens-là, même si Paul peut parler de crainte et de tremblement, ce n'est pas la crainte et le tremblement qui enlève notre joie. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il répète 4 fois. Je me réjouis avec vous tous. Réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. J'ai vu même une traduction qui a dit, si je retrouve dans mes notes, quelque chose comme, je serai heureux. Pour dire, je me réjouis. Pour être heureux. Être heureux. Parce que on appartient à Dieu, on a un Père céleste qui s'occupe de nous. Donc voilà, c'était un petit peu la continuation de la première partie du culte. Est-ce que Nous pouvons changer? Je pense que oui. Même si le léopard, il ne peut pas changer sa... les taches. L'Éthiopien, la couleur de sa peau. De toute façon, ce n'est pas nécessaire. Mais nous, le Seigneur veut que l'on change. Et ça, c'est pour notre bien et pour sa gloire. Donc, je propose un chant qui parle de cela. C'est « À toi la gloire » 283. « À toi Seigneur, je m'abandonne. » Et donc, c'est une prière que l'on peut prier chacun de nous en disant « Ah oui Seigneur, je suis content de savoir que c'est possible de changer. J'ai une base pour ça. Tu m'aides et c'est en vue de l'éternité que je vais passer avec toi. »